Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la tournée du pape François en Afrique australe. Le souverain pontife est au Mozambique. Première étape de son périple dans trois pays de la région qui le conduira ensuite à Madagascar et à l'île Maurice. Dans son premier discours depuis son arrivée à Maputo, la capitale mozambicaine, le chef de l'église catholique a salué aujourd'hui l'accord de paix signé récemment dans le pays en le qualifiant de jalon décisif sur le chemin de la paix. Des propos tenus devant le président mozambicain Philippe Nyusi et Osufo Momade, le leader de la RENAMO, l'ex-mouvement rebelle. Le pape François est à Maputo depuis hier soir. Irénée Hermanongo.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Maputo, le pape François a été accueilli par le président mozambicain Philippe Nyusi. De nombreux fidèles qui scandaient « Vive notre pape François » s'étaient massés à l'aéroport tentant d'apercevoir le Saint-Père avant qu'il ne parte pour le centre-ville. C'est un moment très spécial. Être ici est un grand honneur, a lancé Katharina Simbine, une Mozambicaine de 29 ans. J'espère que cette visite nous apportera une vraie paix, nourrit de son côté Arnaldo Menezes, un étudiant de 25 ans. La visite du pape dans l'ex-colonie portugaise à majorité chrétienne intervient un mois après la signature d'un accord entre le gouvernement. Le pape se rendra vendredi à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, et doit conclure sa deuxième tournée sur le continent africain, dans l'île Maurice, où il est attendu lundi.
Afrique australe, toujours violence xénophobe en Afrique du Sud. Pretoria a fermé temporairement au Nigeria son ambassade à Abuja et son consulat à Lagos après avoir reçu des menaces de représailles suite aux attaques xénophobes meurtrières de ces derniers jours en territoire sud-africain. La fermeture qui a commencé hier continue en principe ce jeudi. Les réactions ont été très vives au Nigeria face aux violences en Afrique du Sud contre les étrangers africains. Alors qu'Abuja exige dans un communiqué une fin immédiate de ces attaques xénophobes, certains groupes de ressortissants nigériens, de citoyens nigériens au Nigeria, ont déjà commencé à s'en prendre aux Sud-Africains vivant au Nigeria. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja, la capitale nigériane.
La tension monte entre les deux géants du continent suite aux attaques xénophobes contre les Nigériens vivant en Afrique du Sud. Le Nigeria prend très au sérieux les attaques contre ses citoyens et a rappelé son ambassadeur à Pretoria. Sur place, les réactions sont unanimes. Awal Moussa Rafsanjani est un activiste.
Oui.
Nous condamnons ce qui se passe en Afrique du Sud parce que cela est inacceptable. C'est une grosse violation des droits des Nigériens et d'autres Africains qui sont tués en Afrique du Sud. Malheureusement, ce sont des Africains noirs et même qui tuent leurs frères africains.
La sécurité a été renforcée ce mercredi au Nigeria suite aux attaques de représailles contre les entreprises sud-africaines dans le pays. La situation est particulièrement tendue à Lagos, la capitale économique, où le supermarché sud-africain Shoprite a été vandalisé par des jeunes Nigériens en colère. Une colère perceptible dans les rues de la capitale Abuja.
Nous avions beaucoup contribué à leur indépendance. Mais comment peuvent-ils nous traiter de la sorte? Et personne ne détient le monopole de la violence.
Je suis vraiment triste parce que ce qu'ils font n'est pas juste. Les Sud-Africains vivent librement chez nous. Par contre, eux, ils ne veulent pas nous laisser vivre en paix dans leur pays. Cela est très mauvais. Donc, ils doivent changer pour donner la chance à la paix.
MTN, le géant des télécommunications sud-africains, a confirmé des attaques contre ses installations à Lagos, Ibadan et Uyo, dans le sud et le sud-ouest du pays. Des précautions ont été prises pour éviter de telles situations à Abuja, après des appels au boycott et à la violence pour protester contre les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Des renforts de police sont postés autour des centres commerciaux sud-africains dans la capitale fédérale. Le gouvernement tente d'apaiser la tension en rassurant sa population. Godfrey Onyama, ministre nigérien des Affaires étrangères.
Les deux forces de sécurité d'Afrique du Sud et du Nigeria peuvent avoir des arrangements pour permettre une coopération sur place en Afrique du Sud, pour éviter la répétition de tels événements.
Même si les deux pays collaborent dans bien des domaines, la rivalité et la méfiance sont très fortes. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Cameroun, Maurice Kamto, principal opposant au président Paul Biya, doit être jugé vendredi par un tribunal militaire. Le leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est accusé notamment d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Des accusations pouvant entraîner la peine de mort. Eki Abadou.
Maurice Kamto est poursuivi pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion. Il risque la peine de mort même si elle n'est plus appliquée dans ce pays. Plusieurs dizaines de ses alliés politiques et partisans devront comparaître en même temps que lui demain, vendredi. Ancien ministre délégué à la justice, M. Kamto, 65 ans, a été arrêté fin janvier avec plus de 150 partisans à la suite d'une marche lancée par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC conteste les résultats de présidentielles d'octobre 2018 qui ont donné Paul Biya vainqueur d'un septième mandat. En mars, les États-Unis ont déclaré qu'il serait sage de libérer M. Kamto. L'Union européenne avait aussi parlé de procédures disproportionnées à l'encontre des opposants. Longtemps silencieuse, la France ancienne puissance coloniale est finalement sortie de son mutisme à la fin mai pour réclamer la libération des opposants. De son côté, l'ONG Human Rights Watch dénonce une initiative politiquement motivée visant à juguler la dissidence.
Politique en Guinée, le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi le lancement prochain de larges consultations portant notamment sur la Constitution. Alors que l'opposition lui attribue la volonté de vouloir modifier la charte fondamentale afin de pouvoir se représenter en 2020. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats présidentiels sur le continent. Au maximum en Guinée. Le chef de l'État n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la Constitution pour pouvoir se représenter en 2020 à la fin de son deuxième mandat, qui s'achèvera en octobre, mais plusieurs de ses déclarations ces dernières années ont été interprétées en ce sens. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé mercredi un nouveau gouvernement sans grand changement, dominé par sa formation politique et marqué par la création du ministère de la Sécurité et de la Protection civile à un an de la présidentielle. Les détails avec Bagassi Koura.
La nouvelle équipe comprend 41 ministres contre 36 dans le précédent et 7 secrétaires d'État contre 5. Le général Vagondo Diomandé, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, devient ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Adama Koulibaly devient le grand argentier. Il remplace Adama Koné, nommé ministre auprès de la présidence chargé des affaires économiques et financières. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture pendant une dizaine d'années, quitte son poste. Il est remplacé par Kobena Kwasi Adjumani, auparavant ministre des Ressources animales et halieutiques. Ce remaniement intervient en plein débat sur la nouvelle commission électorale censée organiser l'élection présidentielle de 2020. Ce scrutin s'annonce tendu 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
Actualité américaine maintenant, l'ouragan Dorian fait désormais route vers les côtes du sud-est des États-Unis. Il pourrait frapper la Caroline du Nord ou la Caroline du Sud d'ici à la fin de la semaine après s'être éloigné de la Floride sans y avoir touché terre ni causé de dégâts majeurs. En revanche, l'ouragan a fait au moins 20 morts dans l'archipel des Bahamas. Jean-Roger Bion.
Ce bilan reste très provisoire dans l'attente de l'avancée des équipes de secours au sol pour déterminer les conséquences précises de l'ouragan qui a touché terre dimanche dans le nord des Bahamas. Dorian a frappé les Bahamas en catégorie 5, s'inscrivant parmi les ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU a déclaré qu'environ 70 000 personnes dans l'archipel avaient besoin de denrées alimentaires, d'un abri et d'aide médicale. Il est à craindre que certaines localités aient été entièrement détruites, submergées ou emportées par l'eau, a dit Mark Lowcock lors d'une conférence téléphonique depuis les Bahamas, ajoutant qu'il était compliqué de localiser et de joindre les habitants des zones touchées.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.